Lettre de Marie-Jo au père Pozza. Octobre. Mon père, je vous prie de bien vouloir venir instamment au chevet de notre amie Marguerite, qui est en train de s'éteindre. La mort de Geneviève l'a plongée dans une grande affliction, et Dieu ne lui prête pas la force de continuer. Il est aussi possible que son mal provienne d'un péché qu'elle n'aurait pas confessé. Je suis persuadée que votre visite ne pourrait être que salutaire, que ce soit pour son corps ou pour son âme. Vous devez venir l'encourager. Et n'oubliez pas votre matériel d'extrême-onction, au cas où. Votre fille dévouée, Marie-Jo. Note de service à destination de tous les personnels des érables, datée du 29 octobre. En raison de graves difficultés financières qui menacent directement la survie de notre établissement, la direction a dû prendre un certain nombre de mesures concernant aussi bien les ressources humaines que les ressources matérielles. Ces mesures vous seront communiquées le lundi 30 octobre à 9h en salle de réunion. Votre présence à cette réunion est absolument indispensable. Journal d'Alice L. 29 octobre. Ma nouvelle amie, Marie-Jo, m'a été d'une grande aide ces derniers jours. C'est une femme très intéressante, qu'on pourrait croire un peu ennuyeuse à première vue, mais qui se révèle pleine de ressources insoupçonnées. La dernière fois, alors que nous essayions de réconforter les éternelles jérémiades de Gloria, elle m'a dit « J'ai toujours été étonnée par la fragilité de certaines femmes. Moi, quand j'étais petite, j'ai compris très tôt que ma mère n'arrêtait pas de trimer, et que si elle s'était arrêtée ne serait-ce qu'une journée, tout serait allé à volo. Quand ça a été mon tour, je n'étais pas surprise. Tout demande des efforts. Il n'y a rien qui demande autant d'efforts que ce qu'on appelle le bonheur, c'est-à-dire de maintenir une famille, une maison, une vie à flot. Sans ces efforts permanents, tout se désorganise, se désagrège et tombe en ruine. Je suis toujours étonnée de voir que plein de gens l'ignorent. Ça m'a fait réfléchir. Il faut dire que j'ai eu la chance de ne jamais avoir à fournir beaucoup d'efforts. Mes parents m'ont protégée, et mon mari, paix à son âme, a continué après eux. Mes enfants ont pris le relais. En vérité, je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose d'héroïque. Cela fait peut-être de moi l'une de ces femmes fragiles dont elle parle, ou tout simplement une femme chanceuse. Mais revenons à nos moutons. C'est elle qui a dégoté le prêtre, et très rapidement en plus. Bon, évidemment, ce père Pozza n'est pas une flèche. Mais enfin, c'est tout de même mieux que rien. Il faut admettre qu'il ne sait vraiment pas s'y prendre. De mon temps, les prêtres avaient quand même un peu plus de doigté. Ils vous tiraient les vers du nez en un rien de temps. Celui-là est un lourdeau. Ses ouailles doivent le mener par le bout du nez, ou je ne m'y connais pas. Quand il est arrivé, nous étions au chevet de Marguerite, en train de prier. Dame, je n'ai jamais autant prié que ces deux derniers jours. Moi qui croyais être fortiche en catéchisme, je dois bien avouer que Marie-Jo m'a battue à plate couture. Elle connaît des prières dont je n'avais jamais entendu parler. Quant à Marguerite, elle ne parle presque plus, en tout cas pas à moi. C'en est presque vexant d'ailleurs, ces longs silences quand je lui adresse la parole. C'est sans doute parce qu'elle ne me connaît pas assez. Marie-Jo dit que c'est parce que je la questionne avec trop d'insistance sur Geneviève, mais je suis sûre que ce n'est pas pour ça. J'ai été très fine et très discrète. Je ne suis pas du genre à y aller avec un bulldozer. Quand j'étais petite, mes sœurs pourraient en être témoins, paix à leur âme, elles m'envoyaient toujours faire la diplomate auprès des parents et des professeurs. C'est un don, ça. Certaines personnes ont le chic pour obtenir des permissions, des confidences, des passe-droits, quand d'autres braquent systématiquement leur interlocuteur. Moi, je suis de la première catégorie, et c'est un petit talent qui m'a beaucoup servi dans ma vie. Cela m'étonnerait donc fort que Marguerite, dans son état, est pris en mauvaise part mes questions sur sa sœur. Je crois plutôt qu'elle est rongée par la honte et la douleur, et je ne la juge pas. Les plus grands péchés doivent inspirer de la compassion aux vrais chrétiens. Donc, quand le père Pozza est arrivé, nous étions confites en dévotion. Cette Marie-Jo, pour le coup, est une vraie grenouille de bénitier. Il nous a demandé de sortir, mais je suis restée à la porte pour écouter. Malheureusement, je n'entendais pas grand-chose. C'est fou ce que ces portes sont bien insonorisées. Je parvenais à entendre les voix et à les distinguer l'une de l'autre, mais je ne comprenais quasiment aucun mot. C'était extrêmement frustrant, et j'ai donc supplié Marie-Jo d'écouter avec moi et de me rapporter leurs paroles au fur et à mesure. Au début, elle a refusé, mais j'ai réussi à la convaincre, et nous sommes restés penchés, l'oreille collée à la porte, pendant toute la durée de la confession. « C'est tout mon monde qui est parti, mon père, » disait Marguerite. « Je n'ai plus goût à rien. » « On m'a dit que vous refusiez de vous alimenter. »« Je n'ai pas faim, mon père. » « Savez-vous que c'est un péché d'attenter à votre vie, Marguerite? C'est le Seigneur qui donne, et c'est lui qui reprend. »« Je ne me suicide pas, je n'ai pas faim. Si le Seigneur veut que je vive, il n'a qu'à me donner de l'appétit. »« Avez-vous d'autres péchés sur la conscience, ma fille? Les péchés peuvent vous étouffer de l'intérieur, si on ne rompt pas le silence. »« C'est si bon de vous entendre m'appeler ma fille, mon père. Cela fait si longtemps que je ne suis plus la fille de personne. » Vous êtes la fille de Dieu, son enfant chéri, comme nous tous. » Marguerite, à ces mots, redoubla de pleurs. « Geneviève était la fille chérie de Dieu, mon père. Moi, je ne suis rien sans elle. » « Pouvez-vous me parler de sa mort, Marguerite ? C'est un grand vide à l'intérieur de moi, mon père, comme si la pression avait changé à l'intérieur de mon corps, comme si mon corps ne supportait plus le poids du monde. J'ai l'impression de m'effondrer autour de ce centre disparu. Mais sa mort, Marguerite, que s'est-il passé? Pouvez-vous me raconter? » Marguerite, à ces mots, poussa une sorte de sanglot, et derrière la porte, je jubilais, certaine que cette fois nous touchions au but. Elle allait avouer son crime, la pauvre âme. Toute l'horreur de cet instant de délire, de cette scène violente et pitoyable qui l'avait poussée au petit matin à étrangler sa sœur, allait sortir d'elle comme un venin immonde, et elle en serait soulagée. « Ne me dites pas que vous aussi, mon père, vous vous êtes mis dans la tête que j'ai pu tuer Geneviève. Ces deux gredines qui sont à mon chevet ne cessent de l'insinuer, et cela me fait tant de peine. Je n'ai pas la force de leur dire d'aller se faire pendre ailleurs. » « Ces deux gredines ? Elle y va un peu fort tout de même, et je la trouve assez ingrate envers des bonnes âmes qui passent leur journée à prier pour elle. Cette Marguerite est une excellente comédienne, ça, on ne peut pas lui retirer. Je dois avouer que même moi, l'espace d'un instant, j'ai douté de sa culpabilité. Le curé, bien entendu, s'est laissé prendre, comme un bleu. Quant à Marie-Jo, elle s'est signée, puis elle m'a entraînée dans la salle commune. « Cela suffit maintenant, Alice, » me gronda-t-elle. « Qui êtes-vous pour l'accuser ? Je vous interdis de rôder autour d'elle, vous m'entendez? Et nous devrions toutes les deux aller lui demander pardon de l'avoir tourmentée. » « Vous êtes si naïve, Marie-Jo. Les criminels nient toujours les faits dans un premier temps. Ils n'avouent que si on les confond avec des preuves. » « Eh bien, Alice, des preuves, jusqu'à preuve du contraire, justement, nous n'en avons pas. » « Non, mais j'ai mon intime conviction. Et croyez-moi, je suis fine psychologue. » « Moi, j'appelle ça se monter le bourrichon, » dit Marie-Jo butée. « Ni plus ni moins. » Comme je n'ai rien trouvé à lui rétorquer, je me suis drapée dans ma dignité et je suis retournée dans ma chambre. Dieu, que c'est agaçant d'être la seule à connaître la vérité. C'est un vrai supplice. Et, telle Cassandre, je m'époumone en vain auprès des incrédules. Et pourtant, je ne peux pas me tromper. C'est exactement comme quand on résout un problème de mathématiques. À un moment, la solution apparaît, dans une illumination excitante et lumineuse. Eh bien, quand j'ai pensé pour la première fois « c'est Marguerite qui a fait le coup », c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et ce sentiment intime, voyez-vous, cette épiphanie intérieure, ça se passe de raisonnement ou de démonstration. C'est le jaillissement de la vérité, et voilà tout. Et les gens qui ne le comprennent pas sont des imbéciles. Blog de Katia. Chronique de mort et de vie. 30 octobre, 10h02. Je déroge à la règle. C'est la première fois que j'écris au travail. Mais là, ce n'est pas possible. Il faut que ça sorte. Et que ça sorte tout de suite. Chalon est en train de nous la mettre à l'envers et en beauté. Je m'étais douté que quelque chose se préparait, avec la venue de cette Kelly pour l'audit, tout droit sortie d'une école de commerce, avec tout le kit de survie dans le monde de l'argent. La beauté standard, les vêtements chers, le sourire de surface accroché aux lèvres pour cacher sa hideuse langue de bois. Cette fille, on a beau chercher dans ses paroles la moindre étincelle de vérité, on ne trouve que du préfabriqué, du langage prémâché, du slogan publicitaire à vomir. Je me demande ce qu'elle a pu se dire en visitant les érables, juchée sur ses talons hauts. Est-ce qu'elle s'est dit « Dans 50 ans, c'est à elle que je ressemblerai » Est-ce qu'elle s'est dit « Les pauvres, certaines sont encore en chemise de nuit et attendent leur toilette à 11 heures du matin, alors qu'elles doivent se recoucher pour le dîner à 18 heures » Est-ce qu'elle s'est dit que ça sentait mauvais dans les chambres du fond, qu'on maltraitait les vieilles dans cet établissement, que leur repas serait dédaigné par la plupart des chats et des chiens de compagnie? Non, elle s'est dit « Où est-ce qu'on peut tirer encore un peu d'argent ici? Qu'est-ce qui pourrait coûter encore moins cher ?» Et le pire, mes amis, c'est qu'elle a été payée pour se poser ces questions. Payée probablement royalement. Elle a dû gagner pour sa seule journée autant que moi en un mois de travail, peut-être plus. Et quelques jours après sa putain de visite, Chalon nous convoque à 9 heures un lundi. Un lundi blême d'octobre qui foutrait le cafard à n'importe qui. Un lundi de deuil et d'angoisse, parce que Zuleika est morte, parce que Jocelyne est morte, parce que Geneviève est morte étranglée et qu'on ne sait toujours pas qui c'est. Les vieilles sont toutes secouées, comme des pauvres oiseaux déplumés dans la bourrasque. Et qu'est-ce que Chalon nous annonce à la réunion? Que leur repas, qui constitue pour beaucoup d'entre elles le seul moment de joie et d'espoir de la journée, seront encore plus maigres? Que leur soirée, qu'elles détestent tant, seront encore plus longues? Qu'on va lésiner sur leur couche? Leur couche, putain! Si j'étais une jeteuse de sorts, je la maudirais d'une incontinence totale, Chalon. Je la ferais mariner dans une vieille couche humide pendant 12 heures, et les djinns la boursoufleraient d'escarres et d'érythèmes. Sérieusement, plus ça va, plus je me dis que ça ne devrait pas exister, les cliniques privées, parce qu'on ne devrait pas mélanger l'idée de gagner de l'argent et l'idée de soigner les gens. C'est à l'enfer que ça mène, par l'autoroute. L'argent pourrit tout, les sols, l'atmosphère, l'eau et le cerveau humain. Quand je partirai d'ici, j'irai travailler dans le public. Et là, même si je galère, au moins je saurai que personne n'est là pour exploiter les vieilles, et je ne croiserai plus jamais de Kelly le Mercier. Bref, j'ai pas pu me retenir d'ouvrir ma gueule pendant la réunion. Mais c'était loin d'être fini. Ça, c'était la mise en bouche. Après, il y avait le plan social, évidemment. Un aide-soignant, un agent de surface, un jardinier, et 2 commis de cuisine qui dégagent. Hop là! 5 personnes sur le carreau, 5 personnes humiliées. On va virer les moins utiles et tout le monde le sait. 5 familles qui vont apprendre la nouvelle avec des larmes et des disputes, des insomnies et des coups de téléphone suppliants à droite et à gauche. T'es qu'un bon à rien, c'est toujours toi qu'on vire en premier. Ton cousin ne cherchait pas quelqu'un pour débroussailler? T'aurais pas 20 € pour mettre de l'essence dans ma voiture, on est le 15 du mois et j'ai plus un rond. Toutes ces scènes, je les vois, je les entends, je les connais par cœur. Les scènes de la misère éternelle, que le SMIC tient à distance, mais de manière si précaire, si volatile. À un moment, la moutarde m'est montée au nez. J'ai encore ouvert ma gueule. Si vous cherchez quelqu'un pour le démissionner, faites-vous plaisir et virez-moi, Madame Chalon, parce que je ne crois pas que je vais pouvoir travailler longtemps dans ces conditions. Et je ne mentais pas. La démission, là, elle me démange sérieusement. Rapport de la réunion d'équipe du 30 octobre, rédigé par Madame Aurélie Chêne, psychologue aux érables. Objet. Anorexie de Madame Marguerite Gautreau. Présent. Docteur Jean-François Gré, médecin. Madame Isabelle Berne, infirmière. Madame Marilyn Chaumet, Monsieur Cyril Berthaud. Madame Katia Amlaoui, aide-soignant. Madame Aurélie Chêne, psychologue. Madame Aurélie Chêne rappelle d'abord les faits. Madame Marguerite Gautreau, qui a récemment perdu sa sœur Geneviève dans des circonstances violentes, non encore élucidées, a montré dès le 16 octobre des signes de chagrin intense, puis de dépression. Son évaluation psychologique, en date du 21 octobre, concluait à « des signes de dépression et de perte de contact avec la réalité immédiate ». La situation s'est aggravée, notamment au point de vue de l'alimentation. L'anorexie, d'abord partielle, de Madame Gautreau, a abouti progressivement à une cessation totale de l'alimentation. Marguerite est à l'heure qu'il est dans un état de faiblesse inquiétant et, compte tenu de son grand âge, 95 ans, la question se pose de savoir si l'on doit procéder à la pose d'une sonde gastrique. La parole est donnée au docteur Gray. Le docteur rappelle d'abord les contraintes représentées par l'alimentation entérale. Risque de régurgitation et de pneumopathie d'inhalation, risque de diarrhée, de constipation, d'obstruction, souffrance lors de la pause et intolérance psychologique. Le docteur Gray rappelle également que Madame Gautreau est âgée de 95 ans et qu'il paraît souhaitable d'entamer une réflexion sur son bien-être général. Il se prononce contre la pose d'une sonde gastrique et propose en remplacement une perfusion pour réhydrater la patiente, assortie d'un traitement par psychotrope. La parole est ensuite donnée à Madame Isabelle Berne, infirmière. Madame Berne affirme que Marguerite ne lui paraît pas nécessiter de traitement de type psychiatrique, attendu qu'elle ne souffre pas d'une maladie mentale, comme la dépression, mais d'un chagrin intense lié au deuil de sa sœur. Elle dit également que Madame Gautreau ne souhaite pas qu'on lui pose de sonde gastrique, et se déclare même résolument opposée à cette idée. Elle fait prévaloir la nécessité de trancher d'abord sur la question de la liberté de la patiente de disposer d'elle-même. Madame Berne, pour sa part, déclare qu'elle souhaite laisser la patiente libre de son choix, étant donné qu'elle ne lui paraît pas démente. La parole est donnée ensuite à Madame Marilyn Chaumet, aide-soignante. Madame Chaumet dit que l'état de Marguerite est sans doute aggravé par l'atmosphère générale de l'établissement. Meurtre non élucidé de sa sœur, suspicion générale. Elle rapporte que certaines patientes font courir le bruit que c'est Marguerite elle-même qui aurait étranglé sa sœur, et que ces rumeurs absurdes ont vivement entamé le moral de la patiente. Elle rapporte également que l'aumônier de l'établissement est venu au chevet de Madame Gautreau et que son avis pourrait être utile aussi. Quand on lui demande de se prononcer sur la question urgente de la sonde gastrique, Madame Chaumet dit qu'elle réserve son jugement. Monsieur Cyril Berthaud, aide-soignant, intervient ensuite. Pour lui, il n'y a pas de débat. Marguerite va mourir dans les 24 à 48 heures si on ne la nourrit pas artificiellement. La pose de la sonde gastrique est donc absolument nécessaire. Madame Katia Amlaoui, manifestement bouleversée, s'exprime après Monsieur Berthaud. Elle dit que l'établissement est entièrement responsable de l'état de Madame Gautreau et en cite les raisons. Manque de surveillance, aboutissant au meurtre de Geneviève, qualité déplorable de la nourriture proposée aux patients, qui pousserait Gargantua à l'anorexie, privation de liberté pour les patientes pendant un nombre d'heures toujours croissant dans une journée. Elle s'étonne que le docteur Gray, ayant prêté le serment d'Hippocrate, parle de laisser mourir une patiente qui a momentanément perdu les pédales après un deuil. Elle s'étonne que tant de gens veuillent laisser mourir Marguerite. Quand Madame Berne lui demande s'il faut lui poser la sonde nasogastrique de force, et si cet acte n'est pas d'une grande violence, Madame Amlaoui s'effondre en larmes et quitte la réunion. Madame Aurélie Chêne prend la parole en dernier, et rappelle toute la difficulté éthique et déontologique de ces débats sur les fins de vie. Elle rappelle la souffrance subie par les patients, mais aussi celle engendrée pour les soignants. En l'absence d'une famille proche, ce sont aux soignants de prendre les décisions, avec toujours en vue le bien-être des patients. Et ces décisions sont délicates et parfois clivantes. Elle rappelle qu'il s'agit là du cœur du métier. Elle reformule la question de manière simple. Pensez-vous que la pose non désirée d'une sonde nasogastrique soit la meilleure solution pour gérer le mal-être de Marguerite Gautreau? Le docteur Gray, Madame Berne, Madame Chaumet et Madame Chêne répondent par la négative. Monsieur Berthaud répond par l'affirmative et l'on prend en compte l'avis exprimé par Madame Amlaoui avant son départ. La décision est prise à la majorité de procéder à une perfusion sur Madame Gautreau et d'ajourner la pose d'une sonde nasogastrique. Afin d'apaiser la souffrance morale de Madame Gautreau, il est décidé de la séparer autant que possible des autres pensionnaires pouvant se révéler involontairement toxiques et de lui administrer des anxiolytiques. Lettre de Monique à son fils. 31 octobre. Mon cher Stéphane, il y a des jours où tu me manques plus que d'autres, où ma vie me manque plus que d'autres, parce qu'on dira ce qu'on voudra, ici, ce n'est pas la vie. Au mieux, c'est l'antichambre de la mort. Heureusement qu'on a les souvenirs. Par exemple, cela m'arrive de me remémorer, en détail, tout ce qu'il faut faire pour faire un gratin dauphinois ou un gâteau au chocolat. Dans ma tête, je vais faire mes courses, je mets mes ingrédients dans des sacs et je les dispose dans ma cuisine imaginaire. Je m'invente des épluches légumes et des fouets, des mixeurs, des robots terribles. Je me souviens de l'odeur de la cuisson, du goût de la maryse léchée pour ne pas laisser perdre une goutte de chocolat. J'ai déjà essayé de demander à faire la cuisine, mais ce n'est pas prévu dans les statuts, m'a dit Chalon. On risquerait de se couper. On ne respecterait pas les règles d'hygiène. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'insister. Entre la nostalgie et la révolte, c'est un mouvement de balancier. 21h. Quelle journée mémorable, mon fils, à marquer d'une pierre blanche dans les annales des érables. Ça a commencé très fort avec la mission secrète d'Arlette. Cela fait un moment que nous voulons percer le mystère de Gloria. À travers les brumes énervantes de ses plaintes, quelque chose d'inquiétant se dessine malgré tout, et cela fait plus de 3 jours que nous avons pris la résolution de planquer, quand l'occasion s'en présenterait, un téléphone dans sa chambre, dûment branché au secteur pour qu'il ne s'éteigne pas, avec la caméra allumée. À ma connaissance, Arlette est la seule à disposer d'un téléphone portable aux érables, et l'opération est donc assez risquée. Car si, comme nous le pensons, Gloria est victime d'une forme de maltraitance, le ou la coupable peut très bien découvrir le dispositif et exercer des représailles. Je ne dirais pas qu'Arlette est inconséquente comme moi. Je suis capable, et ça ne va pas en s'arrangeant, de commettre les pires idioties sans que l'ombre de la pensée d'une conséquence ne m'effleure. Mais Arlette, elle, en est parfaitement consciente et agit quand même. C'est ce qui fait la différence entre la témérité et le courage, à ce qu'on dit. C'est ce qui fait aussi d'Arlette une sacrée bonne femme. Bref, quand nous avons vu dans le hall que Katia était à la fois au bout du rouleau et remontée comme une pendule, il n'a pas été difficile de distraire son attention. J'ai tout naturellement discuté avec elle pour essayer de la consoler, et Arlette nous a faussé compagnie pendant plus de 10 minutes à l'heure de la promenade. C'était largement suffisant pour poser la caméra et la camoufler tant bien que mal. Au bout d'une ou 2 minutes cependant, je dois te dire que j'avais complètement oublié et les pleurnicheries de Gloria et l'héroïsme d'Arlette, parce que ce que Katia me racontait me faisait froid dans le dos. Il paraît que Chalon a pactisé avec le diable. Un démon femelle de 3e classe est venu aux érables pour préconiser des tortures supplémentaires, destinées à nous rendre plus rentables, et le résultat vient de tomber. Restrictions sur tout, les couches, le chauffage, le personnel et même la nourriture. Notre enfer va s'aggraver encore un peu, dans le silence le plus total, et Chalon n'aura même pas l'ombre d'un remords pour cette infamie. Quand Arlette est revenue, après m'avoir fait signe que tout allait bien, et quand nous lui avons tout raconté, j'ai cru que son cœur allait lâcher. Ah, c'est quelque chose à voir, Arlette indignée. Ça vaut le détour, crois-moi. Ça monte progressivement, et puis ça s'emballe, comme une sorte d'orgasme. Le ton de la voix s'élève, les phrases deviennent grandiloquentes, le débit de plus en plus rapide. J'ai eu un petit aperçu de ce que ça devait être au temps des grandes luttes sociales. J'avoue que je ne suis pas restée insensible à cet échauffement. Et, le croirais-tu, la grenouille qui a toujours du flair pour les choses croustillantes n'était pas en reste. On pourrait la croire au-dessus de ça avec sa chambre VIP, mais elle était sous le charme d'Arlette comme nous toutes, et l'une des plus ferventes. Seule Marie-Jo prêchait, comme à son habitude, la résignation. Mais ce n'est pas une jaune, et elle ne nous a pas vendus. Nous nous sommes éloignés dans le jardin, car il nous fallait un peu d'espace pour notre conciliabule. Il fallait nous voir, de vraies conspiratrices, l'œil un peu bigleux, bien sûr, mais d'autant plus aux aguets, et la voix basse, tellement basse en vérité qu'Alice n'entendait rien, et que nous avons fini par faire des chuchotements de théâtre qui devaient s'entendre depuis le fond du parc. Le mot d'ordre était simple. Nous allions choisir une restriction symbolique et protester si fort, si longtemps et si superbement que nous ferions plier les forces de l'ordre, c'est-à-dire en l'occurrence Chalon. C'est Katia qui a eu l'idée du chocolat, une idée brillante, je dois le dire. Les couches, ça ne parle à personne et c'est vaguement ridicule. Ça attirerait bien les larmes de quelques âmes compatissantes, mais le grand public détournerait le regard d'un air dégoûté. Tandis que le chocolat, ça c'est universel. Tout le monde aime le chocolat. Les bébés, les vieillards, les hommes, les femmes. C'est une cause à laquelle tout le monde peut s'identifier. Nous avons longuement discuté, jusqu'à ce que le soir tombe, et nous nous sommes présentés pour le dîner au réfectoire, en ordre de bataille, cuirassés et belliqueux en diable. Katia était de service auprès des grabataires et n'a pas assisté à la scène, mais on lui a promis qu'on la lui raconterait. Le dîner ce soir était particulièrement infâme, ce qui servait admirablement notre projet. Jamais nous ne nous étions autant réjouis de voir le bouillon verdâtre, clairet et nauséabond, à la surface duquel nage toujours une flaque de graisse. Jamais nous n'avions intérieurement autant applaudi aux quignons de pain élastique, au gratin tiède et filandreux, à la ration de fromage chimique qu'il est impossible d'avaler autrement qu'en le suçant, ni au dessert sans joie et sans sucre, forme géométrique gélatineuse, que j'ai toujours comparée à une part de morve et que je n'arrive jamais à terminer, quelle que soit ma faim. Nous avons tout mangé, bien sagement, sans en laisser une miette, et quand on nous a desservi, nous avons commencé notre charivari. C'est Arlette qui a ouvert le bal. Elle a lancé, très théâtrale, comme une allégorie de la désobéissance civile, « Nous voulons du chocolat !» À ces mots, les dames du réfectoire se sont regardées, déconcertées, et l'une d'elles a dit « Il n'y a pas de chocolat ce soir, le repas est terminé !» Alors nous nous sommes déchaînés. C'était comme si l'agressivité contenue en moi depuis des lustres trouvait soudain une échappatoire. Je hurlais. On nous prive, on nous spolie, nous payons 3 000 euros par mois, nous voulons du chocolat. Et Alice renchérissait. Ce bouillon est innommable, ce pain est rassis. Marie-Jo elle-même faisait un raffut du tonnerre avec ses couverts, qu'elle tapait avec véhémence sur la table, et toutes les autres pensionnaires éberluées, hébétées, glapissaient dans tous les sens. Blandine répétait bêtement. Rassis, rassis. Tandis que Gloria, toute tremblante, était prise d'un accès de larmes bruyant et applaudissait à tout rompre. Arlette, rompue aux techniques de protestation, gardait seule la tête froide. Elle savait qu'il ne fallait pas mélanger les slogans et rester sur quelque chose de simple. C'est elle qui a rattrapé la situation en se mettant à chanter. « Chalon, si tu savais tes finances, chalon, si tu savais tes finances où on se les met. » Quand nous eûmes toutes repris le refrain en chœur, elle enchaîna. Tous ensemble, et puis se mit à crier. Les érables, pas les étables, le chocolat, c'est notre choix. J'avoue que notre cœur n'était pas des plus harmonieux. Alice chantait avec une belle énergie, mais malheureusement avec la même délicatesse musicale qu'elle met à jouer du piano. Blandine répétait tout avec un moment de retard. Quant à Arlette, dont les cordes vocales ont été mises à rude épreuve pendant toute sa longue carrière de syndicaliste, elle a fini carrément aphone. Ah, Stéphane, c'est bon d'avoir vécu ça. Surtout quand la directrice est arrivée, et que nous avons entonné « Chalon, si tu savais !» C'était un moment de jouissance pure, un moment vraiment épique de communion contre l'ennemi. Elle était paniquée, la peau de vache. Une révolte des vieilles, elle n'avait jamais entendu parler de ça. Elle a bien essayé de parler, avec sa langue de bois et son ton lénifiant, mais ça ne servait qu'à augmenter encore le tintamarre. Alors elle s'est retirée, lâchement, en crabe, par une porte dérobée. On l'a huée pendant longtemps, il me semble. Et puis la fatigue nous est tombée dessus après cette folle aventure. Les dames de cantine étaient en train de ranger autour de nous, et Cyril était là, l'air un peu goguenard, attendant tranquillement que ça se passe. « Ça y est, vous avez fini ?» demanda-t-il au bout d'un moment. Arlette essaya de répondre, mais elle n'avait plus un filet de voix, et elle finit par hausser les épaules. Blandine, écumante et surchauffée, fit encore tomber quelques assiettes par terre d'un air menaçant, puis elle se mit à rire silencieusement. Alice, comme si elle avait assisté à un spectacle ou participé à une partie de belote endiablée, souriait d'un air ravi. « Quelle bonne soirée, mes amis » dit-elle. « Je vous remercie de ces bons moments, et je vous tire ma révérence. » Ce fut elle qui partit la première. Et Cyril achemina Gloria et Blandine vers les chambres. La protestation était finie. Personne n'en voulait vraiment à Cyril. J'avais l'impression d'avoir gagné une grande victoire, jusqu'à ce que je comprenne enfin ce qu'Arlette essayait de dire depuis tout à l'heure.
« Nous n'avons rien obtenu, camarade. Il faut rester motivé jusqu'à l'obtention du chocolat. »
Je ne sais pas pourquoi. Ces mots ont rallumé ma colère presque éteinte. Chalon avait été un peu bousculé. Mais au fond, c'était vrai, elle n'avait rien cédé, et tout rentrait dans l'ordre quand même. Les pensionnaires étaient en train de regagner leur chambre, épuisés, et la directrice se versait sans doute un petit verre de martini pour se remettre de ses émotions. Peut-être même qu'elle poussait l'ironie jusqu'à déguster un petit chocolat. C'est en l'imaginant en train de mordre dans la délicieuse et onctueuse pâte brune que j'ai décidé de prolonger notre action. Je sais, c'était un acte personnel, une impulsion subite dont je n'ai pas eu le temps de parler à mes camarades. J'ai attendu que tout le monde soit couché, et puis j'ai été prendre les clés dans le local des aides-soignants. Et j'ai déverrouillé toutes les portes. Toutes les demandes vont pouvoir se répandre cette nuit et accomplir des centaines de bêtises. Je nous ai bien barricadés, Arlette et moi. Et maintenant, c'est moi qui vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Bonne nuit de Valpurgis, madame la directrice.
Blog de Katia. Chronique de mort et de vie. 1er novembre, 11h09.
Je n'avais pas envie de venir ce matin. Travailler les jours fériés, ça m'énerve. Et ça tombe plutôt bien parce qu'il est 11h du matin et que j'ai fini ma journée. J'ai d'ailleurs fini ma semaine aussi, et vu que je m'appelle Amlaoui, j'ai probablement fini mon année. Ça fait 5 ans que j'étais aux érables. Je suppose qu'il était temps de lever le camp. Je suis trop en colère pour être triste. La colère est un sentiment qui soutient, plus qu'on ne croit. Aujourd'hui, le départ, c'est moi. Enfin, pour être exact, il y en a 2 de départ dans la même journée, et je devrais commencer par l'autre. Quand je suis arrivée ce matin, je suis allée directement voir Marguerite. J'avais un pressentiment depuis 2 jours. Elle n'arrêtait pas de retirer sa perfusion, et ne faisait pas même l'effort d'ouvrir les yeux quand je venais la voir. Elle était en train de glisser, Marguerite, tout droit et sans faire de vagues. Et quand je l'ai trouvée toute séchée comme un fagot bon pour le feu, plus semblable à un squelette qu'à une femme, j'ai ressenti ma première bouffée de colère. Ça, cette chose, ce corps sans vie avec la peau sur les os, c'était évitable. Et on savait comment l'éviter. C'était un choix concerté, en réunion. On aurait pu lui mettre une sonde, on aurait pu la faire vivre de force. Il suffisait de le vouloir. Alors quand je suis tombée dans mon casier sur la note de Chalon, me convoquant à la première heure à son bureau, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, que comme ça je pourrais lui dire ce que je pense de tout ça. Mais j'ai compris dès que je suis entrée qu'elle n'était même pas au courant pour Marguerite, et que de toute façon, même si elle l'était, elle s'en souciait comme d'une guigne. Je n'étais pas là pour ça, nous n'étions pas là pour ça, puisque Cyril était là avec moi. Cyril, Katia, je vous ai convoqué car l'un d'entre vous a fait une faute très grave hier soir. Déjà, je n'aime pas qu'elle appelle ses subordonnés par leur prénom. On dirait une petite maîtresse qui s'adresse à ses domestiques. Dans ma tête, je me suis dit, un mot de travers et je t'appelle Christine. On verra si ça te plaît. J'ai demandé. Que s'est-il passé? Je veux dire, en dehors du décès de Marguerite, je ne sais pas si vous êtes au courant. Marguerite est morte? A demandé Cyril. C'est très triste qu'elle soit passée ce matin, a dit Chalon, mais ce n'est pas du tout pour cela que je vous ai convoqué. Pourquoi alors? Vous avez pire comme faute professionnelle? Parce que là, on l'a quand même laissé mourir, en fait. Chalon m'a fixé droit dans les yeux et a soupiré comme pour se donner de la patience. Cyril m'a dit que c'était à vous de fermer les chambres des pensionnaires dérangées hier. Oui, c'est vrai, mais elles ne sont pas dérangées, madame Chalon, de même que Marguerite n'est pas passée. Elles sont démentes et Marguerite est morte. Oui, oui, ce n'est pas vraiment le moment de jouer sur les mots, Katia, ni de faire la maligne. Je vous demande pardon, Christine. Ça, on peut dire que ça a fait un effet bœuf. Elle a rentré sa tête dans son cou comme une tortue, tellement suffoquée par mon impertinence, je ne savais pas que son prénom était une insulte, qu'elle n'a pas vraiment trouvé de répartie. Je vous signale que vous avez oublié de verrouiller ces maudites chambres et que les pensionnaires sont sortis pendant la nuit. Là, j'ai dû avoir l'air vraiment surprise. J'ai demandé. Elles sont rentrées? Elles ne se sont pas perdues ou blessées? Je vous remercie d'y penser maintenant, a fait Chalon sèchement. Mais c'est plutôt hier soir qu'il fallait y penser. Mais qu'est-ce que vous insinuez, enfin? Que je ne connais pas mon travail? J'ai verrouillé ces chambres, et surtout celle de Blandine, qui me fout de plus en plus les jetons. Surveillez votre langage, Katia. Je peux comprendre une erreur, un oubli, mais votre entêtement... Mon entêtement. J'ai dû dire ça en criant un peu, parce qu'elle a à nouveau rentré sa tête dans son cou. Oui, votre entêtement a nié l'évidence. Ah, vous me traitez de menteuse. Elle a soutenu mon regard sans répondre. Et toi, tu ne me soutiens pas? Cyril a eu l'air embêté. En fait, je n'étais pas dans le couloir quand tu as fermé les portes. Et évidemment, comme tu es toujours tellement à cheval sur les règlements, ça t'embêterait de porter un faux témoignage. J'ai vu une lueur désagréable dans ses yeux, une lueur malveillante et menaçante. J'ai dit « Allez, ça suffit, je me tire, j'en ai marre de vous tous. » « Vous serez aimable de respecter un préavis, Katia. Cyril part en vacances ce soir et Marilyn ne pourra pas assumer... »«
Oh, mon départ ne vous arrange pas. C'est bien dommage, Christine, parce que je n'ai pas tellement envie de vous arranger. »
Chalon avait son air pincé, un petit mélange de « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» et de « j'ai toujours su qu'avec cette fille, ça se terminerait comme ça. » Peut-être même un chouïa de « les gens de sa race n'ont pas d'éducation. » Mais elle a eu le bon goût de se taire et je suis sortie en claquant la porte. Dans le hall, il y avait les vieilles, enfin, ce qu'il en reste, qui m'attendaient surexcitées. En les voyant, j'ai senti la colère me quitter et une grande tristesse m'envahir. Je n'ai pas envie de les abandonner, vraiment. Ça me crève le cœur de les laisser. Arlette et Monique et Marie-Jo et même Alice. Mais je n'ai pas le choix. J'ai essayé de leur dire ce qui se passait, mais elles m'ont emmené dans le parc derrière un bosquet et m'ont fourré sous le nez un téléphone portable avec un enregistrement vidéo. On reconnaissait bien la chambre de Gloria. Et, à un moment, la porte s'ouvrait et une silhouette entrait. L'image était de mauvaise qualité, le cadrage catastrophique, mais la silhouette était masculine et ressemblait vraiment à Cyril. Il s'est approché du lit où Gloria dormait, il lui a bouché le nez et lui a mis la main sur la bouche pendant quelques secondes, puis il s'est penché sur son visage, peut-être pour lui dire quelque chose, et ensuite il lui a tiré les cheveux, fort, tandis que Gloria gémissait et pleurait. Après, il est sorti, et on ne voyait de Gloria que ses deux yeux clairs, grands ouverts, dans la pénombre, deux yeux exorbités et terrifiés, pleins de larmes. Et on entendait ses hoquets. Elle pleurait longtemps, très longtemps, avant de réussir à se calmer. J'ai dit « Le bâtard !» Les quatre vieilles me regardaient comme si j'étais le messie. Visiblement, elles s'attendaient à quelque chose de plus consistant. Je me suis donc sentie obligée d'ajouter quelque chose. « Il faut bien réfléchir, les filles. Il ne faut pas vous mettre en danger. Il part ce soir en vacances. Alors, il n'y a plus de danger dans les médias, non ?» Arlette a hoché la tête d'un air finaud. « C'est exactement ce que je leur disais. Il ne faut rien précipiter. Les loups ne se mangent pas entre eux. Et si nous venons radoter avec notre enregistrement, il est probable que Chalon les fasse par mégarde. Vous imaginez un peu la mauvaise publicité pour l'établissement. Ce serait le pot de terre contre le pot de fer. » Alice semblait dubitative. « Quand même, Arlette, la directrice ne ferait pas une chose pareille. Elle ne mettrait pas en danger Gloria. Elle ne protégerait pas une crapule de cette espèce. Un assassin, peut-être. » « Ravi de vous l'entendre dire, » a dit Monique. « C'est lui qui a réglé son compte à Geneviève. La pauvre Marguerite a été accusée bien à tort, reconnaissez-le. »« Ah, oh, je me suis sans doute un peu emballée, » a reconnu Alice. Zuleika l'avait dit. « C'est un cheïtan, » a ajouté Marie-Jo. Alice a demandé. « Qu'est-ce que c'est un cheïtan ?»« Un démon, » a dit Marie-Jo en faisant les gros yeux, comme si le mot lui-même était doté de pouvoirs maléfiques. « C'est lui qui change les objets de place, qui gratte aux portes, qui m'appelle par mon nom. » Je n'ai pas pu m'empêcher de répéter. « Putain, le bâtard !» Alors avec les vieilles, on s'est mises d'accord. D'abord, elles doivent cacher le téléphone dans un endroit sûr. Elles vont faire semblant de rien. Et moi, j'irai trouver les flics. Avec un peu de chance, même en m'appelant Amlaoui, je serai plus crédible que quatre octogénaires ravagés.
Email du 1er novembre à 16h48. Destinataire, claude.ferrandeux@justice.gouv.fr. Objet, affaire Gautreau, enquête préliminaire, dossier d'instruction 987112. Expéditeur, commissariat de police judiciaire de Mou-en-Morvan. Madame la procureure, de nouveaux éléments relatifs à des violences supposées à l'encontre des pensionnaires des érables me forcent à réviser la conclusion de mon précédent rapport. Ce jour, Madame Katia Amlaoui, aide-soignante aux érables, est venue spontanément au commissariat. Elle affirme avoir démissionné le matin même, suite à un quatrième décès. Marguerite Gautreau, la sœur de la première victime, avait en effet cessé de s'alimenter, en état de dépression aiguë. Une réunion médicale avait statué sur l'inopportunité de lui poser une sonde nasogastrique, ce qui, de l'avis de Madame Amlaoui, aurait causé directement la mort de la patiente. Cette version des faits a été corroborée par le reste du personnel des érables. Madame Amlaoui déclare, en outre, avoir vu un enregistrement vidéo montrant l'un des aides-soignants des érables, M. Cyril Berthaud, en flagrant délit de maltraitance envers Mme Gloria Meunière. Cet enregistrement vidéo aurait été pris subrepticement par l'une des pensionnaires des érables, dont Mme Amlaoui n'a pas souhaité donner le nom aujourd'hui. M. Antoine Meunière, avocat au barreau de Nevers, fils de Mme Gloria Meunière, m'a confirmé par téléphone que des soupçons de maltraitance avaient récemment été évoqués. Mme Chalon, quant à elle, accuse Mme Amlaoui de diffamer son établissement dans un esprit de vengeance et vante les mérites de M. Berthaud, qui n'a jamais fait la moindre faute professionnelle. Elle admet que les plaintes de Mme Meunière ont donné lieu à un échange de lettres et à une note de service, et que depuis ces mesures, on peut considérer la situation comme stabilisée. Conclusion. Afin de faire la lumière sur ces accusations, et de vérifier si elles sont ou non fondées, je pense qu'il serait nécessaire de procéder dès demain à une convocation matinale de M. Cyril Berthaud, pouvant déboucher sur une garde à vue dans le cas où son comportement ou ses déclarations nous paraîtraient suspects. Parquet du procureur de la République de Chalon-sur-Saône. Convocation en justice. Article 390.1 du Code de procédure pénale. Nous, brigadier de police Robert Gaillard, en fonction au commissariat de police judiciaire de Moux-en-Morvan, agissant sur les instructions de Madame le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, notifions à la personne ci-après dénommée, Berthaud Cyril, né le 22/09/1991, de nationalité française, fils de Dominique Berthaud et de Julie Labèche, demeurant rue de la Petite Tielle, Montcilly, qu'il est convoqué pour affaire le concernant au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône le 2 novembre à 8h. Email du 2 novembre à 7h05. Destinataire, commissariat de police judiciaire de Moux-en-Morvan. Objet, dépôt de plainte. Expéditeur, antoine.meunière@avocat-conseil.fr. Monsieur, Madame, je viens d'apprendre la terrible nouvelle de la mort de ma mère, Madame Gloria Meunière, pensionnaire à l'EHPAD dit Les Érables, depuis plusieurs années. Des soupçons de maltraitance à son encontre ayant déjà été évoqués, et les circonstances de sa mort me paraissant a priori suspectes, je souhaite porter plainte contre X pour non-assistance à personne en danger, abus de faiblesse, violence physique aggravée et homicide. Je passerai au commissariat à 13h et vous prierai de bien vouloir enregistrer officiellement ma plainte à ce moment. Journal d'Alice L. 2 novembre. Au réveil. Mon Dieu, je crains que cette fois Monique ne soit allée trop loin. Je lui avais bien dit qu'elle ne devait en aucun cas recommencer sa bêtise de la dernière fois et ouvrir à nouveau les chambres des démentes. Mais elle est têtue parfois et m'a rétorqué « Ma petite grenouille, Katia vient de se faire virer pour une faute professionnelle qu'elle n'a pas commise et c'est quand même bien le moins que je puisse faire pour elle. » Je comprends sa loyauté d'un sens. Il est vrai que Madame la directrice sera bien forcée d'admettre cette fois que Katia n'y était pour rien. Mais tout de même, cette Blandine me fait froid dans le dos, à chaque fois que je la croise. Si grande et si forte, et elle a totalement perdu le sentiment. C'est insondable de fouiller dans son regard. C'est effrayant. Je remercie le ciel d'être logée à l'écart. Blandine n'aurait jamais l'idée de venir jusque chez moi. Et en même temps, cette solitude a ses inconvénients. Oh, je ne peux m'empêcher de revoir sans cesse cette vidéo monstrueuse et ce serpent de Cyril qui vient harceler notre compagne jusque dans le dénuement de son lit. S'il revenait, s'il lui prenait l'envie de me faire subir la même chose qu'à Gloria, personne ne l'entendrait. Je serais pieds et poings liés. Je me suis raccrochée à ce que nous a dit Katia. Cyril devait partir en vacances ce matin et quitter l'établissement après son service du soir. Il part en Espagne, à ce qu'il paraît. En Espagne, rien que ça. Qu'il y reste et qu'il aille persécuter les vieilles dames de Tolède, qui sauront peut-être mieux s'en sortir avec leur caractère ardent. 9h. J'avais bien raison d'avoir peur. C'est simple, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer et à me calmer. Je sais bien que ce n'est pas le moment de réagir comme une fillette, mais trop c'est trop. Je me sens découragée. En entrant dans le réfectoire, par cette matinée humide et glaciale, j'ai tout de suite vu que nous n'étions plus que 4. Dieu merci. Les 3 autres sont mes plus proches amis, et j'ose espérer que nous nous soutiendrons mutuellement en cas de danger. Ni Gloria, ni Blandine n'étaient là, et les pleurnicheries de l'une et les gloussements sinistres de l'autre nous manquaient étrangement.
Il m'a semblé qu'il faisait beaucoup plus froid que d'habitude dans la salle, et aussi qu'il y avait moins de personnel. Aucun aide-soignant n'est venu nous saluer, et madame la directrice non plus. Au bout d'un temps très long, où nous étions fort inquiètes, Marilyn est venue nous voir. Elle avait les yeux rouges et paraissait secouée. « C'est laquelle aujourd'hui qui a avalé son bulletin de naissance ?» demanda Monique d'un air bravache. « Ne plaisantez pas, Monique, » lui répondit Marilyn. « On a retrouvé Blandine noyée dans la piscine. » Marie-Jo se signa. Pour ma part, je dois avouer que cette nouvelle ne m'a pas particulièrement affligée. Mais Monique est devenue toute blanche. « Elle s'est noyée toute seule ?» demanda-t-elle. « Oui, nous le pensons, » dit Marilyn. « Elle est sortie de sa chambre que quelqu'un a dû ouvrir après le passage de Cyril hier soir. » Je n'ai pas pu m'empêcher de me tourner vers Monique. « Ah, Monique, ne vous l'avais-je pas dit? Vous ne voulez jamais m'écouter !» Elle me regarda d'un air agacé. « Oh, vous, ça va. Je n'ai pas poussé Marguerite au suicide, moi. » J'étais un peu vexée, mais Marilyn ne nous a pas laissé continuer. « Ce n'est pas tout, » dit-elle. « Gloria aussi ?» demanda Arlette. Marilyn baissa la tête et explosa en sanglots. « Comment ?» demanda à nouveau Arlette un peu durement. « Battue à mort. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » C'est moi qui craquai la première, mais les autres se mirent à pleurer presque aussitôt, et nous pleurâmes toutes les cinq, Marilyn, Arlette, Monique, Marie-Jo et moi. Puis en partant, Marilyn nous a donné la consigne de ne pas nous séparer, parce qu'on ne sait jamais. J'ai invité mes amis dans ma chambre, malgré le froid glacial qui y règne, et nous avons discuté tant et plus. Arlette, la première, s'est arrêtée de pleurer, comme si cette activité était parvenue à son terme, comme si le bien qu'elle pouvait procurer était épuisé. C'est elle qui nous a remis à l'action. Nous avons caché le téléphone, comme convenu, et nous n'avons donc plus aucun moyen pour contacter l'extérieur. Si la direction nous y oblige, nous devrons nous séparer pour la nuit. Arlette est en train d'écrire à la police, et Monique à son fils. Marie-Jo écrit aussi. Nous écrivons, toutes les quatre, parce que c'est l'une des seules choses que nous avons le droit et le pouvoir de faire. Je ne me suis jamais sentie aussi impuissante, aussi abandonnée qu'aujourd'hui. 6 femmes sont mortes, quasiment sous nos yeux, et notre petit groupe s'amenuise à une vitesse épouvantable. Qui sera morte demain? Arlette? Monique? Marie-Jo? Ou moi, peut-être? J'ai si peur que je sens bien que mon cœur pourrait lâcher.
Lettre de Monique à son fils. 2 novembre.
Mon cher Stéphane, je pense n'avoir jamais éprouvé pareille frayeur de toute mon existence. Je me demande si je ne crois pas les histoires qu'on raconte sur ces meurtres sanguinolents. Je sursaute au moindre bruit, je vois la nuit tomber avec angoisse, et le matin je me dis... Je ne suis pas morte, pas encore. Mais mon tour viendra, je le sais, et il viendra bientôt. La mort nous délivrera de tout cela. Nous nous évaderons bientôt de cette vallée de larmes. Je ne veux pas que tu sois triste, car j'ai passé de bons moments ici, avec les autres, avec Arlette, la grenouille et Marie-Jo, et avec l'aide de Katia. J'ai beaucoup de souvenirs qui affluent maintenant. Je me souviens de nos fous rires. Je suis sûre que tu te souviens de George Sand. Je n'ai qu'un seul regret aujourd'hui. Un seul désir qui me ronge parce qu'il est impossible. J'aimerais te revoir. Je pense malheureusement que je dois plutôt te dire adieu, mon fils, et me préparer au pire. Maman.
Lettre d'Arlette Tourneur au commissariat de police judiciaire de Mont-Morvan. 2 novembre.
Je n'ai jamais eu beaucoup d'amitié pour les morses de l'ordre, et j'ai longuement réfléchi avant de vous envoyer ces inflammations. Cependant, le fait est grave, et il y a déjà eu mort d'homme, ou plutôt mort de femme, ce qui est plus grave encore. J'indispose d'une preuve incriminant directement Monsieur Cyril Berthaud dans la flore de Madame Gloria Meunière. Ce lâche, ce fils du Piémont et du grand capital, a amusé de sa déposition d'aide-soignant pour toiturer à l'envi cette pauvre femme dont personne n'a découpé les plaintes, pourtant répétées pendant les fermiers mois de sa triste vie. La faute succombe, bien sûr, au moins autant à la vignoble Madame Chalon, dont la surdité bouffable et l'ameublement délétère ont seul permis à une telle sinuosité de se développer sous sa projection. J'ai un enchevêtrement vidéo de la nuit du 31 octobre, où l'on voit très clairement cette canaille de Berthaud frapper et postuler Gloria, qui le supplie en armes de la baisser tranquille. J'espère que vous n'êtes pas trop tangible, car cette vidéo est d'une violette pénible et donne de l'humanité une image dépliante et dégrafée. Je crains fort que Cyril ne se foute de quelque chose, car j'ai trouvé son emportement envers Monique et moi des plus étranges. Peut-être a-t-il entendu des malversations ? Nous autres vieilles, nous parlons si fort, sans nous en rendre compte, que nos décrets sont souvent éreintés avant que d'être conduits par leur destinataire. Bref, j'ai peur. Tant de flammes sont mortes aux érables ces dernières semelles, qu'il me semble que le taux se resserre, que la masse se referme sur moi. Je vous supplie de bien vouloir étêter ce gredin. Vous prouverez mon téléphone sortable, malheureusement déchargé, à l'inférieur du Steinway. En vous redressant par avance de faire le nécessaire pour sauter celles d'entre nous qui n'ont pas encore incombé aux attaques confinées de la finance et du nazisme, votre bien dénoué, Arlette Tourneur. Lettre de Marie-Jo au père Pozza. 2 novembre. Mon père, il m'en coûte énormément de vous écrire cette lettre, et vous comprendrez pourquoi dans les prochains jours. Je vous demande pardon de troubler ainsi votre quiétude, mais vers qui me tourner aujourd'hui, lorsque la mort rôde dans les couloirs et s'immisce dans les chambres, lorsque, comme un esprit malin, elle infecte les âmes des soignants qui sont censés nous protéger. Nous sommes si faibles, mon père. Nous sommes des créatures si pitoyables, si dénuées d'orgueil, si éprouvées par la vie. Qui d'autre que le diable pourrait vouloir donner encore des coups de pied à celles qui se tortillent à terre, peinant à se mouvoir, en lutte perpétuelle contre leur propre corps? La pensée du supplice de Gloria remplit mon cœur de larmes, et le regret, non, le remords, de n'avoir pas été assez attentive, d'avoir laissé passer cette grande souffrance sans même la voir, tourmente mon âme. J'ai peur, bien sûr, car je suis humaine et ne me sens pas la force d'un martyr, mais je me dis que s'il devait m'arriver la même chose qu'à elle, j'aurais au moins la consolation de communier avec cette pauvre âme dans la mort. Je prie Dieu, cependant, de m'épargner cette ultime épreuve. Je voudrais que vous veniez vite, mon père, afin que je puisse confesser mes péchés. Cela me soulagerait infiniment de savoir que je suis prête, en règle, en quelque sorte, et quitte de mes actions dans ce monde. Votre fille affligée, Marie-Jo.